Je suis très content qu'on puisse s'entretenir avec notre prochain invité, au moins pour une dizaine de minutes. Peut-être qu'il pensait que ce serait 7, mais ça va être 10, parce que c'est tellement compliqué, on pourrait y perdre son latin. La façon dont les différents pays gèrent cette crise planétaire de la COVID, la façon dont on remet des règles de restriction, qu'on les lève, qu'un pays qui est le plus grand frontalier, lui, ne les lève pas, qui sont les États-Unis, mais nous autres, on les lève pour la France au mois d'août. Est-ce que je suis à risque et en danger, ma foi? Comment ça, ça doit se gérer? Le Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, est avec nous. Dr Weiss, merci beaucoup d'être là.
Ça fait plaisir, M. Mongrain.
18 000 cas aujourd'hui seulement en France. L'Angleterre laisse tomber toutes ses restrictions malgré des hausses de cas. 71 cas au JO avant même que les Jeux débutent à Tokyo. Un spectacle annoncé de tests ici au Québec pour 20 000 personnes pour savoir comment on se comporterait ou en tout cas comment le virus se comporterait. Il y a de quoi y perdre son latin. Sommes-nous à risque? Le Québec va bien, là. Est-ce que ça risque de moins bien aller avec ces différenciation?
Ça va dépendre en grosse partie de nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça vous montre qu'il n'y a pas de, je dirais, de réponse absolue à l'épreuve de tout, partout dans le monde. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en place un ensemble de mesures pour pouvoir contrôler la pandémie, mais l'épidémie. Et là, je vais essayer de faire deux choses en parallèle. Là, au Québec, au Canada, on essaie de contrôler, et à la limite en Amérique du Nord, dans cette espèce de bulle nord-américaine, on essaie de contrôler la pandémie dans notre environnement pour qu'on puisse retourner à une vie normale. Puis je vous dirais, on peut bien sûr discuter des détails ici et là, mais que globalement, la situation est nettement améliorée par rapport à ce qu'elle était il y a un an, grâce à la vaccination. Pourquoi? Parce que grâce au vaccin, au Québec, au Canada, on a maintenant beaucoup moins de cas. On n'est pas à l'abri, on va en avoir plus à l'automne, mais on est définitivement dans une zone où on a très, très peu de cas. Et surtout, on a très, très peu de cas sévères ou même quasiment pas de cas hospitalisés chez des gens doublement vaccinés. Donc, ça montre que quand vous avez des gens doublement vaccinés, même s'ils testent positifs, ils sont très, très peu malades. On voit aux États-Unis qu'il y a des différences importantes entre différentes régions, c'est-à-dire qu'il y a des zones avec beaucoup de vaccinés où il y a très peu de problèmes, puis il y a des zones avec pas beaucoup de vaccinés où il y a beaucoup plus de problèmes, et il y a aussi des différences importantes dans l'acceptation de la vaccination. Par exemple, on sait que dans la population hispanique aux États-Unis, qui a été surreprésentée dans les cas hospitalisés et les décès, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hésitation initiale à accepter, oui, je vous dirais, la vaccination de masse. Et même là, il y a des différences importantes. Il y a des endroits où ça va super bien, puis il y en a d'autres où ça va moins bien. Donc, on voit qu'il y a une hétérogénéité et on ne peut pas mettre, si vous voulez, le même calque à tout le monde partout à la grandeur du pays. Mais l'Amérique du Nord va relativement bien par rapport au reste de la planète. L'Europe va, je vous dirais, un entre-deux, mais ce qu'il y a, c'est que comme il y a maintenant une large partie de la population européenne qui a été vaccinée quand même, donc l'impact de la COVID sur le système hospitalier n'a plus rien à voir à ce qu'on a vu lors de la première vague, la deuxième vague ou même la troisième vague. Et donc oui, c'est tout à fait vrai qu'il y a beaucoup de cas en Angleterre, en France et dans d'autres pays européens, mais l'impact sur le système hospitalier, parce que quand même, il y a une bonne partie de la population qui est protégée et une bonne partie de la population à risque qui est protégée, donc les gens de plus de 60 ans, les gens qui ont des maladies particulières. Donc, ces gens-là, on ne les hospitalise pas. Alors, ce qui fait que le problème est moins grand, si vous voulez, entre guillemets, qu'il n'était il y a 4-5 mois. Maintenant...
Excusez-moi. Je comprends dans l'argumentaire que vous me donnez et le tableau que vous me brossez que les situations vont en s'améliorant et que ça dépend évidemment, et on revient à la même chose, au taux de vaccination, parce que s'il y a des cas de contamination, ils sont moins graves, ils font moins de pression sur les réseaux de santé. J'en conviens. Mais pour ce qui est de la santé publique, qu'est-ce qu'il y en est? Parce que moi, je veux bien qu'on sauve le système de santé. Je veux bien ça pour tous les autres cas de maladie. Mais est-ce que véritablement, les critères, ce sont des critères de santé publique ou ce sont des critères d'administration d'un réseau de santé qui est défaillant, faible, fragilisé, etc., etc.? Est-ce que c'est l'économie qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une ouverture des frontières unilatérales ici et que les États-Unis ne nous acceptent pas encore? Tout ceci me fait voir énormément de critères qui n'ont pas d'affaire avec ma capacité respiratoire ou avec les dommages de la COVID?
Bon, alors vous posez énormément de questions.
Oui, c'est pour ça que je vous prends pour 10 minutes.
Mais regardez, ce que je vais essayer de vous répondre de la façon suivante. La première chose, et je me suis entretenu avec, on a une réunion avec mes collègues de plusieurs autres pays la semaine dernière, okay. Et on est tous arrivés à la conclusion qu'il fallait changer la définition des cas, c'est-à-dire que quand on a 100 cas au Québec, est-ce qu'on a 100 cas qui a été vacciné deux fois pleinement, qui a été vacciné une fois, qui n'a pas été vacciné. Par ailleurs, dans ces cas-là, qui est malade et qui ne l'est pas, et dans les gens qu'on a à l'hôpital, combien de gens ont été vaccinés et combien ne le sont pas. Ce qu'on voit maintenant, on voit définitivement beaucoup, beaucoup moins de cas qu'on hospitalise, et quasiment tout le monde qu'on voit hospitalisé, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés, donc du tout. Donc, on voit que la tendance est là. Donc, ça, c'est la première chose à dire. Il va falloir avoir une meilleure idée de la définition des cas, et on ne peut plus continuer de sortir du nombre de cas comme on sortait l'an dernier, parce qu'on n'est plus dans la même situation. Ça, c'est la première chose qu'il faut revoir. La deuxième chose, c'est que dans une société, bien sûr, il faut un équilibre. On ne peut pas, de façon continuelle et éternelle, rester dans un couvre-feu confiné, fermé, etc., alors que nous avons un outil pour nous sortir de ça, qui est la vaccination, et on voit que cet outil marche, et évidemment, il y a toujours des considérations politiques dans tous les pays du monde par rapport aux augmentations du nombre de cas, etc. Mais vous voyez que la Grande-Bretagne, en dépit d'une augmentation importante du nombre de cas, cela ne se traduit pas par un impact majeur sur la lourdeur en termes des décès, en termes de l'utilisation du système. Et donc, pour le bien-être d'une population, que ce soit au point de vue économique, que ce soit au point de vue social, que ce soit au point de vue, je vous dirais, des bénéfices de la population autre, l'éducation chez les enfants, les plus jeunes, etc., les universitaires, il faut rouvrir la société. Et donc, il faut accepter qu'à un moment donné, quand on n'avait pas d'outils, quand on n'avait pas de vaccin, on était démunis. On n'était pas capable de se défendre face à ce virus, hormis le fait qu'on pouvait porter un masque et qu'on fermait la société. Mmh. Là, avec un vaccin, on est capable de dire on peut ouvrir la société dans une certaine mesure et essayer justement de retourner à une vie normale pour pouvoir continuer à avancer. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, c'est tout à fait normal qu'une société s'ouvre, continuer de retourner là où elle était, avec, vous allez voir, des différences d'un endroit à l'autre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc, est-ce que les gens qui décident en Europe, dans tel pays, de faire telle affaire, ils ont plus ou moins raison que nous, ou que nous, on a plus ou moins raison que eux? Il y a une zone grise qu'on n'est pas capable de couper au couteau, mais la tendance globale est de dire qu'il faut ouvrir la société avec notre outil qu'on a actuellement, qui est le vaccin.
Dernière question. Si nous, on doit s'adapter, je connais une chose qui s'adapte beaucoup, c'est le variant ou les variants. Est-ce que c'est une course là, entre vaccin et variant, et celui qui va gagner la course va nous ramener à la vie normale ou pas?
Alors, ça fait longtemps qu'on avait dit que c'était une course entre les variants et les vaccins. Maintenant, les variants, c'est tout à fait normal pour un virus d'avoir des variants. C'est sa vie. Un virus, il est là pour avoir des variants. Donc, sinon, il ne serait pas un virus. Et ça, on l'a tout le temps avec l'influenza, le VIH, tout ce que vous voulez comme virus, surtout des virus à ARN. Une fois que j'ai dit ça, c'est tout à fait normal qu'on va avoir d'autres variants et que les variants qu'on va avoir dans le futur vont remplacer ceux qui sont actuellement dans notre environnement. Donc, l'idée, c'est à la limite, oui, c'est la course entre les variants et le vaccin. Le problème, c'est que là encore, il y a deux courses. Il y a une course locale, donc au Canada, en Amérique du Nord, puis il y a une course planétaire. La course locale, on est en train de la gagner parce qu'on a quand même une bonne proportion de la population nord-américaine. Si on prend les gens de plus de 12 ans, que ce soit le Canada, les États-Unis, on met tout le monde ensemble, il y a plus de 60% qui a déjà été vacciné. Et aux États-Unis, et même au Canada, probablement au Canada, 48%, aux États-Unis, plus de 60% qui ont déjà eu leurs deux doses. Donc, globalement, je vous dirais, il y a de l'amélioration, il y a encore des zones de résistance, mais la course aux variants versus la course aux vaccins, en Amérique du Nord, elle a tendance à pencher vers le vaccin qui est en train de gagner. Maintenant, le problème, c'est le reste de la planète.
Ouais.
Il y a actuellement 650 millions à peu près de gens sur Terre pleinement vaccinés. On va dire 700 pour faire un chiffre rond.
Ouais.
Okay. Disons 700 millions pleinement vaccinés. C'est énorme, mais ce n'est même pas 10% de la population terrestre qui est 8 milliards de personnes. Et en plus, ces gens-là sont beaucoup concentrés dans des pays plutôt riches. Donc, ce que ça veut dire que tous les variants qui sont en train d'émerger, qui n'ont pas encore de lettres grecques attribuées, mais sont en train d'émerger quand on regarde les réseaux spécialisés dans des pays d'Afrique, au Mozambique, au Kenya, en Angola. Il y a une situation qui est en train d'être catastrophique en Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Laos, la Cambodge, l'Indonésie, qui est probablement un des pires actuellement. Donc, tous ces pays-là ont des variants qui sont en train d'émerger, qui n'ont même pas encore reçu leur lettre grecque pour l'instant. Mais ce que tout ça veut dire que la future bataille à l'échelle planétaire, elle va être là. Et il est fort probable qu'on va se retrouver avec une pandémie à deux vitesses. Donc, une vitesse des pays riches et une vitesse des pays pauvres. Oui. Et donc, et ça, c'est clair qu'on s'en va vers ça.
Okay.
Et à ce moment-là, comment tout ça va interagir pour
éradiquer? C'est notre vigilance. C'est notre vigilance à nous.
Pour éradiquer, si vous voulez, l'aspect de la COVID, de la planète. Alors, c'est pour ça qu'on est avec ça pendant encore quelques années avant que planétairement, on va dire, que la COVID est totalement sous contrôle. Parce qu'il va falloir vacciner tout le monde également dans des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Brésil. Et si vous regardez ces pays-là en termes de nombre d'habitants, si vous regardez les pays de plus de 200 millions dans le monde, bon, il y a la Chine qui était un cas peut-être à part, mais si vous regardez les pays de plus de 200 millions dans le monde d'habitants, le seul qui s'en sort relativement bien, ce sont les États-Unis. C'est un peu normal et attendu.
Bien sûr, c'est assez riche comme pays.
C'est eux qui ont fabriqué les vaccins. C'est grâce aux États-Unis qu'on a les vaccins. Oui. C'est grâce aux États-Unis qu'on a les tests. C'est grâce aux États-Unis qu'on a les médicaments de la COVID, ceux qu'on a utilisés et ceux qui s'en viennent. Donc, c'est clair que l'aspect
Juste en conclusion, s'il vous plaît, parce que nous sommes presque rendus aux infos.
Alors, en conclusion, c'est que oui, la situation est bonne au Québec. Il faut encore faire attention, il y a des efforts à faire. Il faut continuer à la vaccination. Ceux qui ne le sont pas, faites-vous vacciner. Ceux qui n'ont pas eu leur deuxième dose, ayez votre deuxième dose. Et il faut avoir nos mesures de soutien, le masque encore quand on est à l'intérieur, etc. C'est un ensemble de facteurs qui va faire qu'on aura une vie normale dans les mois à venir.
À mois ou années?
Moi, je vous dirais les mois à venir, et puis j'espère après ça les années. Mais quitte à avoir en Amérique du Nord une bulle normale, je pense que si on est capable de maintenir des niveaux de vaccination élevés, des contrôles importants dans les frontières nord-américaines, on aura une vie normale en Amérique du Nord relativement rapidement. À certaines conditions, on vaccine, on contrôle les frontières, mais à l'échelle de l'Amérique du Nord, et on continue de garder encore nos mesures comme les masques, etc.
Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste de la maladie infectieuse à l'hôpital général juif de Montréal. Merci beaucoup de votre vulgarisation.
Ça me fait plaisir, M. Mongrain.
Merci, au revoir. Bonne journée.
Au revoir.